100% d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Tout comme Uber qui déstabilise le marché des taxis, le géant Airbnb est désormais dans le collimateur de nombreux gouvernements en raison de son impact sur le marché de l'immobilier et du tourisme. Alors qu'en France, le Sénat veut imposer l'enregistrement des bailleurs et la déclaration des revenus, en Allemagne, à Berlin, un coup de frein drastique a été porté au marché. Depuis le 1er mai, la location entière d'un logement, pour une courte durée, est désormais interdite, sauf autorisation exceptionnelle, une mesure destinée à couper court à la spéculation immobilière autour de ces immeubles dédiés au tourisme. Berlin, qui fait le plein de visiteurs attirés par l'ambiance et les prix modérés, fait désormais ses comptes. Reportage sur place de Julien Méchaussier.
Neukölln, à quelques pas du canal et de la Reuterplatz, un quartier dont la réputation a bien changé. Il y a à peine 10 ans, ces rues étaient connues pour leur criminalité et leur forte concentration de sex shops. Aujourd'hui, ils figurent dans les guides touristiques comme l'un des quartiers de Berlin à ne pas rater. Bars, clubs, galeries d'art et ambiances multiculturelles en ont fait le champion des offres Airbnb. Près de 500 chambres et appartements autour de la seule Reuterplatz sont ainsi proposés sur le célèbre portail, un record pour la capitale. Signe que l'économie du partage est bien devenue un commerce qui rapporte gros et qui chamboule les règles du marché immobilier. Ce que pointe du doigt Tom Kunstner, qui milite au sein de l'Alliance d'associations de locataires du nord de Neukölln.
Wenn es wirklich Menschen gibt, die eine Wohnung selbst bewohnen und in der auch weiter...
Nous n'avons aucun problème avec les personnes qui sous-louent leur appartement pour une courte période. Par exemple, lorsqu'elles partent en vacances. C'est d'ailleurs bien ça le concept original d'Airbnb. Mais cette entreprise est malhonnête quand elle affirme n'avoir que des utilisateurs avec ce profil-là. La vérité est tout autre. De nombreux utilisateurs se servent d'Airbnb à des fins commerciales. Ils ciblent spécifiquement les touristes avec des appartements qui ne seront jamais sur le marché locatif classique.
Hello, come rein.
Changement de quartier, nous sommes à Friedrichshain. Franziska nous ouvre la porte de son grand deux pièces de 70 mètres carrés, une perle rare aujourd'hui à Berlin, avec parquet, balcon et grande hauteur de plafond dans un quartier vivant. Il y a un peu moins d'un an, pas moins de 6 appartements, tous situés dans ce bel immeuble ancien, ont été mis sur le marché locatif, après avoir servi 10 ans comme appartement de vacances.
J'étais très curieuse de savoir pourquoi ces appartements étaient tous d'un coup alloués. Lors de la visite, j'ai donc demandé à la propriétaire pourquoi. Elle m'a juste répondu qu'elle n'avait plus le droit de les louer comme appartement de vacances, sans plus de précision, et que la ville lui avait donné environ un an pour mettre ses logements sur le marché locatif. Donc oui, en effet, je pense qu'avoir obtenu cet appartement est une conséquence directe de la nouvelle réglementation.
La volonté du Sénat de Berlin a donc porter ici ses fruits, remettre sur le marché locatif des appartements dans un contexte d'explosion des loyers et de pénurie de logements dans le centre-ville. Si Tom Kusner salue aussi ces mesures, il y voit cependant un jeu de dupes grâce auquel le Sénat essaierait de faire oublier le manque de construction de logements sociaux.
Cela permet au Sénat de dire « Regardez, nous travaillons et nous prenons des décisions fortes ». Pendant ce temps, plus personne ne parle des politiques désastreuses du logement de ces 10 dernières années ou encore de l'absence totale d'intervention de l'État pour permettre aux gens avec un faible revenu de se loger. Il ne faut pas oublier que nous sommes aussi en ce moment en pleine campagne électorale et on peut imaginer que le Sénat souhaite se présenter sous son meilleur jour.
Des élections qui auront lieu en septembre prochain avec, pour grand thème, les prix de l'immobilier qui ne cessent d'augmenter. Attablée en terrasse dans l'un des nombreux cafés juste en bas de chez elle, Franziska doute également de l'efficacité de la limitation des offres Airbnb. La grande majorité se trouve dans des quartiers à la mode et une fois à la location, le loyer exigé pour ces appartements est bien trop élevé pour être accessible au plus grand nombre.
Je paye assez cher pour habiter ici et la plupart des gens ne peuvent pas se le permettre. Je suis consciente que c'est un luxe. J'habite toute seule sans être obligée de vivre en colocation. Vu le prix du loyer, cet appartement ne peut être occupé que par des personnes avec un revenu confortable. Il est inaccessible pour la grande majorité des gens qui cherchent un appartement avec un petit budget. Et c'est ça le véritable problème dans cette ville.
die wirklich darauf angewiesen wären und Wohnungsraum wirklich brauchen.
Franziska paye 800 euros, toutes charges comprises, un loyer à faire rêver les habitants d'autres grandes capitales européennes comme Londres ou Paris. Mais c'est une petite fortune à Berlin, dans une ville qui connaît un taux de chômage bien supérieur à la moyenne nationale et en queue de peloton des revenus moyens par rapport aux autres Länder.
C'est un phénomène qui touche de nombreuses communes du centre et du nord-ouest du pays. En Bulgarie, les villages se vident de leurs habitants qui vont à la ville ou émigrent. Il reste des villages fantômes qui tentent toutes les stratégies pour ne pas mourir. Un reportage signé Damien Vodenicharov.
L'atmosphère est paisible. Pas un bruit de voiture, pas de brouhaha lié à l'activité humaine. Et pourtant, on n'est pas dans la forêt, bien au contraire, on est en plein milieu d'un village. Bienvenue à Garnia, population une personne. Si on entend que ses propres pas, c'est parce que ce village, juché sur le versant nord des Balkans, est complètement désert. Certaines maisons sont complètement envahies par la végétation, d'autres sont à moitié détruites par les intempéries. Les portails sont parsemés d'avis de décès. À quelques kilomètres de là, on se retrouve dans le village de Docha. 5 personnes y résident en permanence. La rue qui le traverse est tout aussi déserte. On y trouve juste Stéphane, un berger qui est né ici. Les choses ont bien changé depuis 20 ans, nous confie-t-il.
Avant, tout était plein ici. Il y avait du monde. Il y avait de l'agriculture, de l'élevage. Tout le monde avait un lopin de terre à cultiver. Attends, combien de maisons il y avait là? 1, 2, 3, 4, 10 maisons? Avec au moins 4 ou 5 personnes par maison. Il y avait entre 50 et 100 personnes ici.
Avec la disparition des coopératives nées du communisme, l'agriculture dans le village s'est écroulée, elle aussi. Sans travail, les habitants sont partis tenter leur chance ailleurs.
Tout le monde est parti en ville, tout le monde cherche du travail, mais il n'y a pas de travail. Il n'y a ni travail, ni argent. Ici, je ne touche rien. On achète mon lait pour 3 fois rien, c'est une farce. J'ai 2 bœufs pour avoir de la viande en hiver.
Les villages de Garnia et Docha sont la règle plutôt que l'exception. Les chiffres ne font que confirmer cette situation catastrophique. En 2014, la région perdait 11,6 pour 1000 de sa population. Les villages, eux, perdaient jusqu'à 28 pour 1000. Les raisons sont surtout économiques, explique Denitsa Vachkova, maire adjointe à la commune de Dranovo, la plus touchée au niveau régional.
Le plus gros problème dans notre commune, c'est le vieillissement de la population. Les jeunes ont du mal à trouver un emploi. Et les entreprises ici ont tout juste le personnel qui leur est nécessaire. Et on ne propose pas plus du salaire minimum pour les nouveaux postes. C'est le genre de problème qu'on retrouve partout dans le pays, pas seulement ici.
L'administration de la région, fraîchement élue, est ambitieuse. Elle multiplie les événements culturels et tire tout azimut pour revigorer l'économie de la commune.
Nous suivons tous les financements offerts par l'Union européenne. Nous avons toute une équipe qui ne s'occupe que des appels d'offres. Nous sommes constamment à la recherche d'investisseurs pour créer des emplois dans quelques secteurs que ce soit. Les services ou la production.
Tout n'est effectivement pas perdu pour cette petite commune de 7000 habitants avec ses villages abandonnés. À Slavikovo, qui était sur le point de disparaître il y a une dizaine d'années, le salut est venu d'Angleterre. Fidèles aux traditions de l'île, les habitants se retrouvent au bistrot tous les soirs. Anglais et bulgares se rassemblent autour d'un verre et on parle un mélange des deux langues. Dave et Jane Harrison, un couple qui habite ici depuis une dizaine d'années, ne regrettent pas du tout d'avoir quitté le Yorkshire.
Ici, c'est comme en Angleterre, il y a 40 ans. La vie est calme, on peut faire ce qu'on veut sur sa propriété. On achète un bon lopin de terre et on n'a pas les autorités tout le temps sur le dos. En Angleterre, il faut des autorisations pour tout. Alors qu'ici, on peut faire des travaux quand on veut, c'est beaucoup plus paisible.
La dimension financière est également très attrayante. Dave et Jane n'auraient jamais pu se permettre de vivre confortablement au Royaume-Uni. En Bulgarie, ils ne se soucient plus de leurs finances.
Nous avons vendu notre logement et cherchions une maison à la campagne, au calme. On n'aurait jamais pu se le permettre en Angleterre. Nous avons travaillé pendant 30, 35 ans rien que pour acheter notre logement. On n'y passait pas beaucoup de temps parce qu'on devait travailler pour le payer. On cherchait donc un endroit où on n'aurait pas à travailler autant et où tous les frais seraient supportables.
Étonnant, en 10 ans, Slavikovo est donc devenu le centre cosmopolite de la région. Ils sont maintenant une centaine d'Anglais, d'Américains ou de Néerlandais à redonner vie à la communauté. Plusieurs communes dans le pays ont ainsi trouvé le salut auprès d'étrangers à la recherche d'un certain style de vie, plus campagnard et paisible. Mais c'est plutôt l'exception que la règle.
Et ce n'est pas un village, mais un quartier fantôme situé sur la ligne de démarcation entre le nord et le sud de l'île de Chypre. Le quartier sud de la ville portuaire de Famagouste est derrière les barbelés depuis plus de 40 ans, depuis la partition de l'île. Curieuse ville qui se tourne vers le passé, faute de voir clairement son avenir. Alexis Rosenzweig s'y est rendu.
Appeler cette ville par son nom est déjà une entreprise délicate. Pour les chypriotes turcs, elle est Gazimagoucha, pour les chypriotes grecs Amorostos, son nom, avant qu'ils ne partent pour un exil forcé suite à l'invasion de l'armée turque en 1974. Hélas, Famagouste n'est plus célèbre pour son imposante cathédrale gothique, bâtie par la dynastie française des Lusignans et transformée en mosquée par les Ottomans. Pas davantage pour son château Othello, qui aurait inspiré Shakespeare et vient d'être rénové, encore moins pour ses remparts médiévaux, témoins d'un passé foisonnant que seuls peuvent connaître des villes portuaires stratégiques sur la Méditerranée. Non, si Famagouste, aujourd'hui, est connu dans le monde, c'est pour autre chose de beaucoup moins glorieux, pour sa banlieue sud, Varosha, qui offre sur une douzaine de kilomètres le long de la plage un bien triste panorama dont on ne connaît le détail que grâce à des photos ou des images filmées par des drones. De cette station balnéaire, prisée dans les années 60 par la Jet Set internationale et où bronzaient Liz Taylor et Brigitte Bardot, il ne reste qu'une ville fantôme, inaccessible et surveillée par des soldats. Varosha, à chaque tour de négociation, c'est un sujet âprement discuté par les dirigeants des deux côtés de l'île, une monnaie d'échange. Et 43 ans après la partition, quand les touristes arrivent à Famagouste, c'est bien souvent Varosha qu'ils souhaitent voir en premier, ou en tout cas apercevoir, à travers le grillage.
Livre. Près de 10 ans après avoir quitté Downing Street, l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair déchaîne toujours les passions, mais de plus en plus rarement de manière positive. La dernière biographie qui lui est consacrée, Broken Vows, Promesse brisée en français, la tragédie du pouvoir, a été écrite par le journaliste Tom Bower. On retrouve à Londres Marie Billon pour en parler. Bonjour Marie.
Bonjour Frédéric.
Tom Bower est un journaliste bien connu pour avoir déjà écrit plusieurs biographies à charge.
Oui, il a une dizaine de biographies à son actif, sans compter les nombreux portraits qu'il a écrits pour divers journaux britanniques, et aucun n'est l'œuvre d'un tendre. Tous se sont consacrés à des politiques parfois peu connus du grand public ou à des businessmen. Il a notamment écrit sur Richard Branson, le fondateur de Virgin, contre lequel il a apparemment une haine farouche. Et là, ça n'est pas une, mais deux biographies à charge qu'il lui a consacrées. À chaque fois, Tom Bower est attaqué en diffamation, mais il faut ajouter que la plupart du temps, il gagne. Certains de ses livres ont eu aussi de vrai retentissement. Le député travailliste Jeffrey Robinson a par exemple été suspendu après que Bower l'a accusé de malversation. À l'heure où je vous parle, une autre biographie sur le businessman britannique Richard Desmond est prête à être publiée, mais aucune maison d'édition n'en veut, de peur de se retrouver avec un procès sur le dos.
Et cette dernière biographie sur Tony Blair ne fait pas exception, 650 pages qui ressemblent, il faut bien le dire, à un réquisitoire.
Voilà, c'est un petit peu sa dernière victime. Et par contre, là, il y a peu de chances que l'ex-premier ministre prenne la peine ou le risque de lui intenter un procès. Tom Bower dit avoir commencé à travailler sur Tony Blair avec un esprit ouvert, mais le résultat est là. Il n'aurait rien fait de bien pendant ses 10 années au pouvoir. Les accusations sont nombreuses et elles sont lourdes. Par exemple, il a été à l'origine du chaos qu'est aujourd'hui le Moyen-Orient en suivant George Bush en Irak. Rien de très neuf ici, sauf que Bower dit que Blair avait pris en fait la décision de partir en guerre dès avril 2002, après avoir passé du bon temps dans le ranch de W à Crawford. Il ne restait qu'à convaincre le Parlement par tous les moyens. Blair aurait aussi ouvert les portes du pays à tous les immigrants, et ce ne serait pas par conviction, il s'agirait d'une conspiration visant à noyer le pays sous des flots d'immigrants. Les exemples sont nombreux.
Tony Blair avait été salué en son temps comme un génie de la politique, l'inventeur d'une nouvelle gauche, le New Labour. Le journaliste reconnaît-il ce sens tactique et politique ?
Bah non, au contraire, Tony Blair souffrait selon lui d'un manque d'intérêt profond pour les mécanismes du gouvernement. Dans les premières pages du livre, l'auteur souligne son attitude dédaigneuse et hypocrite en arrivant à Downing Street, quand les bons et loyaux fonctionnaires tentent d'expliquer à ce jeune Premier ministre qui n'a aucune expérience de gouvernement comment les choses fonctionnent, comment s'assurer que les décisions prises soient appliquées. Tony Blair ne dit rien, si bien que les fonctionnaires ne réalisent pas à quel point il les dédaigne. Alors c'est vrai que Blair était connu et critiqué pour son kitchen cabinet, ses réunions au sommet avec seulement quelques élus, mais pour Bauer, ce n'est pas de la stratégie, c'était l'expression de son complexe de supériorité. En plus, on aurait tort de penser que Blair était un bon politique, il n'était qu'un bon communicant, pas un bon décideur, et il est parti pile quand les Britanniques auraient commencé à s'en rendre compte.
Et si l'on en croit Tom Bauer, alors faut-il tout jeter dans l'expérience Tony Blair ?
Quasiment, oui, Bauer range presque aux oubliettes les bonnes performances économiques du Royaume-Uni sous le New Labour, par exemple. Il parle peu du regain d'intérêt pour la politique que Tony Blair a suscité, même si c'est vrai qu'elle a été de courte durée. Par contre, il est obligé d'admettre que pour la paix en Irlande du Nord, Blair a bien fait les choses. Mais, parce qu'il y a un mais, ce succès n'a fait que galvaniser son ego déjà surdimensionné. À partir de là, il s'est vu comme celui qui pouvait tout régler dans le monde entier. Il s'est mêlé du Kosovo et de l'Irak et il s'est cassé les dents sur le dernier.
Et comment cette biographie a-t-elle été reçue au Royaume-Uni où, il faut bien le dire, Tony Blair n'est pas très populaire ?
C'est vrai que Blair est sincèrement détesté ici et pour deux raisons. D'abord, la guerre en Irak. Mais surtout, le problème, c'est ce qu'il est devenu après avoir quitté Downing Street. Un homme faisant payer ses discours et ses conseils à prix d'or et flirtant, dit-on, avec des dictateurs, amassant au chemin une fortune immense.
Un Tony Blair finalement tellement populaire qu'il est peu mis à contribution ces jours-ci dans la campagne sur le Brexit.
Il a été peu ou pas sollicité, en effet, il faut dire que Tony Blair était très pro-européen, trop en fait, puisqu'il était favorable à l'adoption de l'euro, ce qui est le pire des sacrilèges pour beaucoup de Britanniques, même parmi ceux qui ne sont pas hostiles à l'UE. Il a tout de même parlé, il a dit en début d'année que quitter l'Europe pousserait l'Écosse vers l'indépendance. En mars, il a dit que le camp du maintien au sein de l'UE devrait montrer plus de passion, mais ces derniers préfèrent certainement qu'il en dise le moins possible, car cela pourrait véritablement nuire à leur campagne.
Merci Marie Billon, Broken Vows, une biographie à charge contre Tony Blair.
Sortir.
Et on terminera sur les rives d'un des plus beaux lacs des Balkans. Les montagnes plongent dans le bleu limpide du lac Doride en Macédoine. Véritable paysage de carte postale. Et sur la rive sud-est, on aperçoit un monastère tout aussi sublime, le monastère de Saint-Naum que Simon Rico a visité pour nous.
Pays de haute terre, la Macédoine n'a pas d'accès à la mer, mais l'ancienne République yougoslave se console avec le grand lac Doride, au sud-ouest du pays, à la frontière avec l'Albanie. Le site est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité depuis 1979, et en 1980, l'UNESCO a aussi classé son très riche patrimoine culturel et historique, dont le monastère Saint-Naum, fondé au Xe siècle par Naum de Preslav, un disciple de Cyrille et Méthode, les deux apôtres des Slaves. Depuis, les reliques du saint n'ont jamais quitté ce rocher en éperon qui domine le lac, malgré les vicissitudes de l'histoire. Fait étonnant, la tombe de Saint-Naum est vénérée tant par les orthodoxes que par les musulmans de la région. Saint-Naum est invoqué pour les troubles mentaux et il se dit que les âmes pures peuvent même entendre son cœur battre sous sa pierre tombale, logée dans la petite église actuelle bâtie au XVIe siècle. Il faut aussi admirer les fresques peintes en 1806 par un artiste albanais, mélange d'influences médiévales et baroques. Les bâtiments conventuels ont été reconstruits après l'incendie de 1875, mais le style byzantin originel a été conservé. Les pans qui se promènent en liberté sont les autres vedettes de ce lieu, où se dégage une ambiance particulière, sûrement liée à l'intense présence de l'eau. Le monastère de Saint-Naum reste un lieu très fréquenté, tant par les fidèles que par les touristes du monde entier, qui peuvent loger dans l'hôtel pour profiter du calme et de la vue. Mais mieux vaut éviter la haute saison avec les milliers de visiteurs qui se pressent ici du matin au soir pour un pèlerinage plus commercial que religieux.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Ludivine Amado. Retrouvez-nous sur notre site et sur les réseaux sociaux. À demain.